cours de philosophie du vivant par le père Philippe à Saint-Genard le 21 février 1989.
Nous étions restés en philosophie du vivant à la procréation. Vous voyez que les deux problèmes s'en joignent, le regard éthique et le regard de philosophie du vivant. Il reste très important de bien distinguer. Le regard éthique, c'est l'aspect volontaire. C'est pour ça que toute l'éthique se voit dans cette expérience de l'amour d'amitié. Et l'aspect de la philosophie du vivant, c'est en partant d'un vivant parfait, hein, ce que vous êtes. En partant d'un vivant parfait, l'expérience que nous avons de l'intérieur de ce vivant. Et nous distinguons, après avoir inféré l'âme dans une induction, d'avoir saisi l'âme, et d'avoir saisi cette intériorité du vivant, ces différents degrés de vie. Premier degré, vie végétative. C'est la vie végétative qui, au point de vue philosophie du vivant, comme au point de vue éthique, est la plus obscure. C'est là où la science biologique apporte le plus de précision. Mais faisons attention, elle apporte des descriptions sur les développements génétiques de l'être humain. Et ce développement génétique de l'être humain, au plan scientifique, demeure uniquement descriptif. On se posera le problème après, intervenir d'une manière artificielle, d'une façon médicale, sur ce devenir. Jusqu'où peut-on intervenir? Mais, toujours très délicat. Alors là, vous voyez, il y a un problème biologique de philosophie du vivant, il y a un problème éthique. Mais très différemment. C'est comme ça va naître la bioéthique. Parce que le problème biologique, dans la mesure même où on peut le saisir et intervenir, interfère avec un problème éthique. Et c'est au niveau, évidemment, et en premier lieu, de la procréation que le problème bioéthique joue. Donc, je me place au plan de vue philosophie du vivant, maintenant, où on essaie d'analyser les causes. L'âme végétative, je ne me suis pas posé la question encore, on pourra se la poser, si je l'oublie, vous me le rappellerez. À quel moment pouvons-nous philosophiquement parler de la présence de l'âme biologique, de l'âme végétative? Ici, j'essaie de comprendre. Je mets d'Aristote, puisque il n'y a pas beaucoup de philosophie du vivant, vous savez. Cherchez-les, il y en a très peu. Mais évidemment, si on voulait sortir aujourd'hui une philosophie du vivant, ce qu'il faudrait faire, il faudrait, dans le bas de la page, montrer tout ce que la biologie dit et constamment passer du rez-de-chaussée au premier étage ou de la cave au rez-de-chaussée. Parce que c'est plutôt le rez-de-chaussée qu'on voit. Et la cave, c'est l'aspect biologique. Il faut toutes les machines à vapeur, à laver, à cuire, à tout ça, c'est toutes les machines. C'est pour ça que Descartes dit que tout l'aspect de la vie biologique, c'est mécanique. Il y a toute une part mécanique, en plus, c'est évident, et chimique. Si vous avalez tel produit, hein, vous verrez les douleurs de votre intestin, de votre estomac, de votre foie, et ça pourrait aller à la mort. C'est une manière de se suicider. Ou attaquer le cœur. C'est vrai. Notre vie biologique est liée à tout notre univers physique et chimique. À la biochimie ou la chimie tout court. C'est lié à tout ça par l'alimentation. Par l'alimentation. L'aliment est fondamental. C'est pour ça que l'assimilation est fondamentale. Tant qu'un vivant assimile, il vit. Le jour où il n'assimile plus, il meurt. Alors l'assimilation de la nutrition, l'assimilation de la boisson, l'assimilation de la respiration. Il y a trois types d'assimilation. Et quand on n'arrive plus à assimiler l'air qui nous est donné, l'oxygène qui nous est donné, ça ne va plus très longtemps. On peut arrêter la nutrition, c'est pour ça qu'on peut jeûner. Aujourd'hui, je ne prends rien de solide, je prends du liquide. Quand vous ne mourrez pas à la fin de la journée, c'est toujours quelque chose. Ne faites pas ça trop longtemps, parce que vous risquez de vous affaiblir. Vous ne pouvez pas imiter matériellement le jeûne du Christ. 40 jours sans boire et manger. Au bout des 40 jours, il eut faim. Donc, il y a l'appétit naturel que Jésus avait à l'égard de la nourriture. Mais c'est vrai, premièrement, c'est la nourriture solide. Et dans la nourriture solide, on pourrait graduer. Hein. Beefsteak en dernier lieu, et beefsteak saignant en dernier lieu. Ça, c'est là où on voit très bien si vous avez encore un estomac qui marche bien. Première chose qu'on supprime au carême, les beefsteaks saignants. Puis après, avant que la viande hachée, hein. Puis vraiment, on est au régime de la purée. Puis au régime du liquide. Puis au régime de la respiration. Différents modes d'assimilation. Faites votre petite hiérarchie d'assimilation là-dessus. Et chaque fois, l'assimilation implique une abstraction. On assimile et on rejette. C'est extraordinaire de voir ça. La machine humaine. Hein, et là, l'art médical, avec la science biologique, grâce aux expériences, en se servant des petites bêtes, et hélas, quelquefois en se servant de l'homme, parce qu'on n'a pas le droit. En Suède, il y a le quartier des victimes de la médecine. Je ne crois pas qu'en France, c'est encore institué. Il y a le quartier des victimes de la médecine. On s'est servi de vous pour faire une expérimentation de vos produits. Vous êtes tombé malade. Vous êtes victime du progrès scientifique. Vous avez donné votre estomac. Et les dents des petits-fils en sont agacés. Alors vous avez un lit réservé victime de la médecine. Je connaissais quelqu'un qui... C'est lui qui m'a raconté ça. Victime de la médecine. Alors ça vous donne une décoration et une permission d'être malade toute la fin de votre vie. Et vous avez un lit national. C'est curieux, hein, on se sert même de l'arme pour ça. Et on le dit ouvertement aujourd'hui. Pour le progrès, alors la médecine est-elle pour l'homme ou l'homme est-il pour la médecine? Toute la question est là. Est-ce que j'ai le droit? La question est question qui se pose, c'est bien, quand des gens sont 5 ou 6, ils sont perdus dans la montagne, ils ont très faim, ils meurent de faim, vaut-il mieux que le Benjamin s'offre pour qu'on ait encore des réserves de nourriture? Ça s'est posé. Et le problème a été posé ouvertement. Est-ce qu'on a le droit de tuer? On tira la courte paille. Eh bien, comme dit la légende. Oh. Et puis le sort tombe sur le plus jeune, toujours. Et alors on se met à faire de la cuisine assez particulière pour pouvoir vivre encore. Mais, voyez, ça paraît monstrueux. Et se servir d'un mourant pour le progrès, ça passe. C'est du même ordre. Respect de l'homme va jusque-là. Hein. Respect de la personne humaine. Alors, c'est important de comprendre ça, que l'assimilation implique une abstraction. La première abstraction, elle est naturelle. Et quand elle ne se fait pas, on meurt d'intoxication. Les produits toxiques ne sont pas éliminés. Et tant que les produits toxiques ne sont pas éliminés, c'est ce qu'on vous dit tout bonnement. Hein. Ah oui, vous avez été malade, on vous a donné un régime intensif de médicaments, il faut les éliminer après. Et ça met du temps à les éliminer. Parce que c'est toxique. On le sait, mais pour sauver. Et on joue comme ça, la situation limite. Et c'est très beau ça, parce que si vous faites toutes les analogies avec la vie de l'intelligence, le jour où on n'accepte plus l'abstraction, l'intelligence meurt, complètement intoxiquée. Je crois que c'est la fémologie. L'intoxication généralisée. Parce qu'il n'y a plus d'abstraction. L'abstraction, c'est la vitalité de l'intelligence qui rejette ce qui est toxique, ce qui est inassimilable. C'est pas assimilable. Or, de fait, hein, c'est ça qui est très très curieux. Et ce que Bergson n'a pas saisi. Le réalisme de Bergson n'a pas été jusque-là. Il parle de la connaissance abstraite comme lamentable, la connaissance abstraite. C'est la connaissance mathématique. Il faut l'intuition. L'intuition sans abstraction. Alors l'intuition sans abstraction fait qu'au bout d'un certain temps, vous ne pouvez plus que décrire. Et quand vous ne pouvez plus que décrire, vous êtes à un stade très élémentaire de connaissance. Vous n'êtes plus un alpiniste. Vous ne montez plus. Il n'y a plus d'induction. Il n'y a plus que la description. Vous voyez, la vie végétative a ceci de très extraordinaire. C'est que c'est quand même la vie. Et elle nous donne les lois très élémentaires d'une vie qui n'est pas la vie première. Une vie participer. Dans un jugement de sagesse, c'est ce que je dirais, j'ai une vie participée. Et cette vie participée se sert du milieu, parce que le propre du vivant, c'est d'impliquer un milieu, se sert de ce milieu pour assimiler et rejeter ce qui n'est pas assimilable. Et autant que possible, une bonne cuisine, c'est de ne vous donner que ce qui est assimilable. Comme ça, vous pourrez mieux digérer. Mais une cuisine qui n'est pas bien faite vous donne aussi des quantités de produits toxiques. Et alors, votre pauvre estomac, il en prend. Et la nuit, vous êtes complètement malade. Mais quand vous prenez des produits un peu avariés, ça arrive, soi-disant par pauvreté. Alors la pauvreté consiste à faire que tout le monde soit malade. C'est pas impliqué dans la pauvreté. prendre des produits avariés, non. C'est mauvais. Ça fait que tout le monde est malade. Alors, il y a un discernement. Si le cuisinier a un estomac de girafe, si le cuisinier a un estomac délicat, donc on dit toujours que les bons prieurs doivent avoir un estomac délicat pour pouvoir comprendre tout de suite les produits qui ne sont pas bons. Il dit pas attention. Il faut réfléchir là-dessus. On a une matière à réflexion qui va très loin. Vous voyez, il ne faut pas tout de suite s'en servir pour murmurer. Alors vous transformez la chose au point de vue éthique. Mais non, réfléchissez d'abord sur votre estomac. Et sur l'aliment, et sur les produits toxiques. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Faites l'analogie avec la pensée. Quand on vous sert en nourriture, au plan philosophique, une philosophie avariée, qui est très faisandée, déjà des petits animaux dedans. Oui. Une philosophie dialectique, une philosophie marxiste, une philosophie freudienne, et qu'on fasse ça pour des petites intelligences toutes jeunes, qui ont avidité de connaître, qui se jettent là-dessus. Vous voyez ce que ça fait. On détraque tout. Une philosophie saine, on peut l'assimiler. Mais chacun d'entre nous, nous l'assimilons à notre manière, parce que ça passe par la parole. Parce que ça passe par la parole, ce n'est pas immédiatement assimilable. Chacun d'entre nous doit faire l'effort d'assimiler. Et pas seulement boulotter. Voilà, on le reprend, on prend. Après, non, on doit assimiler. Et l'assimilation implique toujours, pour chacun d'entre nous, il y a un effort de discernement. Parce que il n'y a pas possibilité, vous voyez, de communiquer directement d'une intelligence à une intelligence. On passe par l'imagination, on passe par l'image, par la parole, par le sensible. Toute l'affectivité comme milieu qui permet ou qui ne permet pas une assimilation directe et qui fait que forcément il y a des produits aussi toxiques. L'assimilation, la croissance. La croissance, c'est de l'ordre de l'extension. C'est beaucoup moins noble que l'assimilation. L'assimilation, c'est très noble. Il n'y a que le vivant qui assimile. Ça, c'est la grande découverte d'Aristote. Et elle est valable. J'ai demandé à tous mes amis biologistes si je pouvais définir encore le vivant comme celui qui assimile. Il m'a dit oui. Parce que la science n'explique pas l'assimilation. Absolument pas. L'assimilation est une opération vitale au-delà de toute mensuration scientifique. Elle ne doit être saisie que de l'intérieur. C'est pour ça que c'est toujours très bon de voir le parallélisme entre l'assimilation et l'appréhension. L'assimilation végétative et l'appréhension intelligible. Les deux s'éclairent. C'est pas suffisant, mais les deux s'éclairent. Il ne faut pas projeter de l'un à l'autre. C'est allô, allô, hein. C'est autre, autre. Et vous revenez à l'expérience. Alors vous n'expérimentez pas directement l'assimilation. Ni intellectuelle, ni végétative. Vous constatez. Tiens, j'ai pris ce repas. Ah, j'ai très très bien digéré. Oh, merveilleusement. C'est comme si je n'avais rien mangé. Tandis qu'après, d'autres repas, oh, c'est effrayant. Pas pu travailler toute l'après-midi. Et ça, on le sent d'autant plus quand on est fatigué, vous voyez. Quand c'est en pleine santé, on assimile n'importe quoi. L'assimilation, la croissance. c'est de l'ordre de l'extension. C'est le raisonnement. Ça s'étend, ça. Ça prend possession d'une quantité de plus ou moins. C'est vrai, depuis le premier instant de la conception, vous n'assimiliez pas encore. Hein. Vous avez commencé à assimiler à la naissance. Vous avez eu 9 mois, ou quelquefois un peu moins, ça dépend, au moins un certain temps, où quelqu'un d'autre a assimilé pour vous. Alors faites des analogies. Quelqu'un d'autre a assimilé pour vous. Au noviciat, on est couveuse électrique du Saint-Esprit. C'est la couveuse du Saint-Esprit. C'est merveilleux. Le Saint-Esprit vous apprend à assimiler autrement. Et c'est vrai, ça. Et la profession, ah, la naissance. On est. Alors, comme on est des êtres déjà un peu plus grands, il faut 12 mois. Canoniquement, les 9 mois sont transformés en 12. Cherchez le symbolisme du nombre. 12 mois de noviciat, canoniquement. Un peu plus, pour être sûr, pour que le bébé pèse ce qu'il faut normalement. Alors, l'assimilation, l'Esprit Saint nous fait ça. C'est très curieux, ça. C'est un mystère, cette vie végétative. C'est extraordinaire. Et on commence à assimiler personnellement à la naissance. Et de la naissance jusqu'à l'acmé, le sommet. Le sommet. On ne grandit plus. Non pas seulement on ne grandit plus, mais la structure se fait. C'est la croissance. Après, il y a un moment de stabilité, le haut plateau. Toujours très agréable, le haut plateau. Le haut plateau qui dure un certain temps. Et après, on commence à diminuer. Non seulement de taille, mais on commence à diminuer. On n'a plus la même énergie. Vital. Le capital vital commence à s'user jusqu'au jour où il n'y aura plus rien du tout. Alors à ce moment, on s'arrête. Et la terre est là pour vous recevoir. Oui, il y a une courbe. Il y a une courbe. C'est très extraordinaire. Et chacun, nous avons notre courbe. La courbe du voisin n'est pas la nôtre. Ça, la croissance et la décroissance jusqu'au moment où on est étouffé par le milieu. On ne domine pas son milieu, on ne l'utilise plus, on est étouffé. Puis alors, la procréation. Parce que chacun a un rythme où il y a un sommet et puis la décroissance, pour que l'espèce demeure, philosophiquement parlant, pour que l'espèce demeure, il faut la procréation. La procréation est nécessaire. La procréation, c'est le cri de l'espèce pour dépasser les individus. Les individus sont relativisés par la procréation. Et sont dépassés par la procréation. Et la procréation représente donc un absolu au point de vue de la vie végétative. Un absolu immanent à l'espèce. Et c'est pour ça que la procréation est fin de la vie végétative animale. Fin de la vie végétative, tout court. La vie végétative se finalise par la procréation. C'est très, très... très important pour nous de bien comprendre ça. La vie végétative se finalise par la procréation. Or, jusqu'au bout de notre vie, nous restons quand même des êtres de vie végétative. Et donc, en nous, et en chacun d'entre nous, la vie végétative a un appétit naturel à la procréation. Cet appétit naturel à la procréation pourra être dépassé par une finalité humaine, spirituelle, l'amitié et la contemplation. Alors, il faudra se demander dans quelle mesure l'amitié peut dépasser la procréation. Ce n'est pas une question ici, ça, c'est une question d'éthique et de politique même. Est-ce que j'ai le droit, humainement parlant, est-ce que j'ai le droit d'éviter ce service naturel de la procréation? Oui, une politique purement laïque. Politique purement laïque. Peut-elle comprendre que certains êtres humains se désintéressent de la procréation et disent, c'est pas pour moi. Au nom de quoi dites-vous ça? Si vous êtes en face d'une politique religieuse, vous direz, au nom des exigences de ma vie religieuse. Mais au nom purement éthique, humaine, est-ce que je peux le dire? Est-ce que l'amitié humaine suffit? Ou il faut nécessairement l'adoration et la contemplation? Posez-vous au moins la question, même si vous ne la résolvez pas, c'est déjà beaucoup. Est-ce que l'éthique humaine, comme telle, permet le dépassement de la procréation? Étant donné que la procréation s'impose d'une manière impérative dans la vie des animaux, dans la vie végétative. Ça s'impose d'une manière impérative, puisque c'est la fin. C'est la survie de l'espèce. Alors, si je suis au niveau de l'éthique humaine, alors je pourrais toujours dire, voyez, au point de vue éthique humaine, cette éthique humaine n'est pas parfaite, elle s'achève dans l'éthique religieuse. Donc, au nom de l'éthique religieuse, je peux dire que l'éthique humaine se replie sur elle-même au nom d'une laïcisation. Et par le fait même, c'est plus une éthique humaine. Alors, il y a certaines choses qu'elle ne peut pas dire. Elle ne peut pas aller jusqu'au bout des exigences humaines. Mais je comprends très bien la révolte qu'il peut y avoir chez quelqu'un qui ne regarde que l'éthique humaine. Révolte. Votre devoir élémentaire au point de vue humain, vous ne le faites pas. J'ai entendu des personnes qui me disaient ça. Ils étaient sincères. Il fallait leur faire comprendre qu'il y avait autre chose. Dès qu'on touche l'esprit, on peut. Mais il faut encore montrer l'esprit dans une finalité transcendante. Donc, découvrir l'éthique religieuse. Dans une éthique purement humaine, pas commun du tout. Je crois qu'on le peut, mais ce n'est pas commode. Les arguments sont très subtils. Oui. Dans une éthique purement humaine, c'est la recherche de la vérité. La recherche de la vérité suffirait à montrer que on peut, pour être plus libre dans cette recherche de la vérité, s'adonner entièrement à cette recherche de la vérité. Est-ce qu'on pourrait uniquement au niveau de l'amitié humaine le montrer? Je ne sais pas. Posez-vous la question, elle est importante. La procréation est donc ce qui finalise notre vie végétative. Notre vie végétative n'est parfaite comme vie végétative que dans la procréation, où elle devient source d'une autre vie. C'est pour ça que le philosophe dit toujours, seul le vivant parfait peut engendrer. Et ça, c'est intéressant à voir comme affirmation, il s'agit de la comprendre. Mais c'est intéressant, seul le vivant parfait peut engendrer. Le vivant imparfait, l'enfant, ne peut pas engendrer. Et pour Aristote, c'est ce qui permet de mieux comprendre la différence qui existe entre la sensibilité et l'instinct sexuel. La sensibilité s'éveille au niveau de l'appétit naturel du boire et du manger. Tandis que l'appétit à l'égard de la procréation s'éveille plus tard et ne s'éveille pas dès le point de départ. Je crois que là, il y a une confusion terrible dans le freudisme à laquelle on doit être très sensible. Pour Freud, l'élément sensible est directement lié à l'aspect de l'instinct sexuel. Alors que, philosophiquement parlant, il faut distinguer l'appétit naturel à l'égard du boire et du manger, qui est lié à la sensibilité, comme on va le voir, et qui n'est pas l'appétit à l'égard de la génération, de la procréation. Il y en a un qui s'éveille tout de suite et un autre qui s'éveille progressivement et lentement, parce que seul le vivant parfait peut engendrer. Vous voyez, cette affirmation d'Aristote qui est très forte. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour être source de vie à l'égard d'un autre être, il faut soi-même être parfait au point de vue de sa vie végétative. Si on n'est pas parfait au point de vue de sa vie végétative, on ne peut pas être source à l'égard d'un autre. Oui, ça c'est la perfection de la causalité efficiente. La causalité efficiente implique qu'on soit capable de communiquer ce qu'on est à un autre. Ce que seul le vivant parfait peut engendrer. Et quand il s'agit de la procréation, il ne faut pas seulement un seul vivant, il faut les deux. Le mâle et la femelle. Au point de vue vie biologique. Il faut les deux. Alors ça, c'est aussi très curieux. Ça a intrigué énormément Aristote. Je comprends du reste. Pour le philosophe, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de voir que plus le vivant est parfait, pour être source de vie, il ne peut plus être seul. Alors que le vivant inférieur peut être source de vie seul. Le vivant parfait ne peut être source de vie que s'ils sont deux. L'union pour la procréation de deux vivants. Et ceci pour montrer ce que représente la perfection d'être source de vie. On est source de vie que s'il y a une plénitude de vie. Et le vivant qui est l'homme, qui sont les animaux plus parfaits, est incapable, par lui-même, d'être source unique de vie. Vous savez bien que c'est une des recherches constantes de la biologie. Et je crois, à cause de l'affirmation de notre foi, Marie, source de vie, tout en demeurant vierge, sous l'action de l'Esprit-Saint. Ça a tracassé énormément les biologistes. Et ça continue d'être agacé. Je me souviens, il y a quelques années, c'était quand Rostand était en pleine verve d'évolutionnisme de jour. Je me souviens d'un article que j'avais lu, qu'on m'avait envoyé, et c'était orienté vers ça. On arrivera à montrer qu'un vivant unique peut être source de vie, qu'une vierge peut enfanter. Il terminait son article comme ça. Qu'une vierge peut enfanter, indépendamment de l'action de l'Esprit Saint. C'est très curieux, hein, c'est moche. Parce que ça prouve que la révélation montre un dépassement par rapport à la vie humaine. Pour nous, c'est clair. Au point de vue de notre foi, il y a un miracle. Intervention directe de Dieu pour dépasser l'ordre naturel, pour que l'ordre naturel rejoigne autant qu'il le peut l'ordre surnaturel, par ce qu'on appelle quelque chose qui est préternaturel. Le miracle est préternaturel. Le miracle permet à l'ordre naturel d'aller le plus loin possible. Je ne dis pas pour rejoindre l'ordre surnaturel, il y a toujours un abîme. Mais montrer qu'il n'y a pas contrariété, contradiction entre l'ordre surnaturel et l'ordre naturel. C'est toute la signification profonde du miracle. C'est la toute-puissance de Dieu, naturellement, qui agit sur le naturel pour lui permettre d'être tout proche du surnaturel. Mais le surnaturel restera toujours une gratuité absolue. On ne doit pas confondre, hein, maternité miraculeuse, maternité divine. Élisabeth, maternité miraculeuse, dans sa vieillesse, elle est source de vie pour le petit Jean-Baptiste. Ce n'est pas une maternité divine. Tandis que Marie, maternité miraculeuse, divine. Le divin est surnaturel. Tandis que l'autre est préternaturel. Il est miraculeux. Bon, ceci entre parenthèses. Hein. Mais c'est intéressant, puisque, je vous dis, des savants comme Rostand, au moment de sa verdeur, à la fin de sa vie, je crois qu'il aurait plus dit. Où il était désireux de cette conquête au niveau biologique, d'aller le plus loin possible, et donc de rejoindre un sommet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il considère que c'est un sommet, au point de vue de la vie végétative. Le savant qui regarde ça de l'extérieur considère ça un sommet, une vierge qui enfante, qui sort de vie, qui est mère. Normalement, selon les lois de la nature, un être vivant parfait, quand il est un être vivant de vie très évoluée, le sommet, la vie humaine, ne peut pas par lui-même être source de vie. Il faut cette fécondation par un autre et qu'il soit deux pour qu'il y ait la conception. La conception, c'est ce moment tout à fait particulier au point de vue de la procréation où le concours de deux êtres au niveau de la vie végétative concourt d'une manière telle qu'il y a une séparation qui se fait. Un être nouveau apparaît. Celui qui est conçu. Dans sa petitesse, dans sa fragilité, mais un être nouveau est donc séparé. Vous voyez, la vie implique l'immanence. L'assimilation, c'est l'immanence parfaite. Une réalité extérieure est assimilée d'une façon telle qu'elle va s'identifier substantiellement au vivant. Le vivant est capable d'assimiler une réalité extrinsèque pour en faire son propre bien. Donc l'assimilation représente l'opération la plus immanente qui soit. Elle est substantiellement immanente. Et c'est pour ça que ça caractérise la vie. Et d'autre part, la procréation montre la plénitude de vie. Vous voyez, substance et acte. La substance, c'est l'assimilation. L'acte, c'est la procréation. La projection, si j'ose dire, de ces deux grands aspects métaphysiques, substance et acte, vous les retrouvez dans le vivant. Le vivant, dans son identité plénière, c'est celui qui assimile. Et le vivant, dans son moment ultime, quand il touche sa finalité, le vivant du végétatif, quand il touche sa finalité, est source de vie pour un autre. Et à ce moment-là, il y a la séparation. Il y a la conception d'un être nouveau. Vous voyez comme c'est curieux. L'immanence de la substance, la séparation de l'acte. Et ceci, encore une fois, dans la vie végétative, nous le voyons, le constatons. S'il n'y avait pas la métaphysique de l'acte, vous ne pourriez pas expliquer la procréation. Par la substance, vous expliquez l'assimilation. Et par la philosophie de l'acte, vous pouvez montrer comment le vivant de vie parfait va impliquer une séparation. L'immanence de la vie ne suffit pas à expliquer le vivant. Parce que l'immanence de la vie dans la vie biologique n'explique pas la survie de l'espèce. Et la survie de l'espèce ne peut s'expliquer que par une reprise radicale du vivant par la conception. Où tout est repris radicalement. Ça non plus, ça ne s'explique pas scientifiquement. Vous ne pouvez pas l'expliquer scientifiquement. Comment le vivant, dans sa fécondité, au moment où il atteint son sommet, au moment où deux êtres vivants coopèrent dans cette coopération pour la fécondité, où ces deux êtres deviennent source d'un autre qui reprend tout à l'état initial, premier moment de la conception. C'est extraordinaire ça. Je trouve ça, moi, merveilleux au point de vue de la sagesse de Dieu. Et c'est merveilleux au point de vue purement philosophique. Et vous voyez ça dans toute vie végétative. Et vous n'expliquez pas comment le grain de blé donne naissance à une quantité de grains de blé. Mais oui, mais c'est ça l'évolution. Pas du tout, pas du tout. C'est les mêmes grains de blé, spécifiquement, mais ils sont multiples. C'est extraordinaire de voir un grain de blé qui donne. Alors, l'homme tend, aujourd'hui, vous allez voir ça, à donner une quantité de grains de blé. Puisque on voit qu'avec ces procédés actuels, quelquefois, la mère donne naissance à 6 enfants. Alors vous voyez comment elle va les traîner dans la rue. Ou 5. C'est quand même. très curieux, cette loi de la vie. Et comprendre cela, voyez, au point de vue philosophique, comment la vie végétative, atteignant son sommet, a un fruit qui reprend tout initialement. Et la séparation se fait à ce moment. Il y a quelque chose de nouveau. Tout est repris. Conservare, renovare. Le vivant est un être conservare par l'immanence. L'immanence est le conservare. Et la conception, c'est le renouveau.